Chapitre 2e. Voici pourquoi le jeune Bertrand n'avait pas la tête à son rôle et pourquoi, en particulier, il avait manqué son entrée quelques heures plus tôt. Son histoire de voiture versée ressemblait à la confession du bandit qui s'accusait d'avoir jeté au fond d'un précipice le bonnet de son camarade. Fra Diavolo négligeait de mentionner la tête, restait dans le bonnet après une dispute un peu vive. Le marquis passait trop légèrement sur certaines jeunes filles qu'il avait trouvées près de la voiture, dans le plus grand embarras. Il suffit d'un détail mis à sa place pour changer toute la physionomie d'un récit. En somme, voici comment l'aventure était arrivée. Fonlus était sorti du château, sinon dans l'enthousiasme, au moins sincèrement décidé à rejoindre les deux Américaines sur la route, comme il l'avait promis, car s'il ne faisait pas toujours ce que voulait sa mère, encore ne promettait-il jamais ce qu'il n'était point résolu d'exécuter. Donc il s'en allait, combinant sa promenade pour tomber juste au lieu de la rencontre. Le temps était chaud, l'allée touffue, complètement ombragée qu'il suivait au pas de son cheval, était délicieuse. Il songeait que la poussière d'une route au grand soleil est le pire des fléaux pour qui vient de savourer l'humide fraîcheur d'une futaie aux senteurs aromatiques. En même temps, il songeait qu'une vingtaine d'hommes de ses connaissances et un peu plus de femmes gémissaient tout haut ou tout bas de s'être mariés, tandis qu'il n'avait vu personne s'arracher les cheveux pour avoir pris le parti contraire. Afin de se donner du courage, il se disait « Flora Kingsley passe pour la plus jolie des Américaines de Paris et l'on ne cite sur la place que deux ou trois sacs de dollars plus gros que le sien. Elle est un peu faste, mais toutes ses compatriotes le sont à son âge. » Et le premier enfant les guérit de ce travers. Voilà certes un remède qui n'a rien de désagréable, surtout pour le médecin. Malgré tout, il ne voyait pas sans regret une tache lumineuse marquant l'entrée du bois grandir au bout de son allée, bien qu'il laissât le lion dormir, comme une bique de maraîcher qui porte les choux aux halles. Cette promenade, qu'il faisait probablement pour la 200e fois, prit subitement pour lui le caractère d'un incident grave, presque solennel, dont le retour, vraisemblablement, n'aurait jamais lieu. Non, plus jamais, selon toute apparence, le Bertrand de Fonlus de l'heure présente, libre, dégagé de tout lien, maître de son avenir, dépendant de son seul caprice, plus jamais cet homme-là ne foulerait ce gazon du sabot de son cheval. Cette pensée le remuait d'une sorte d'attendrissement sur soi-même qui n'était pas sans mélancolie. Un peu plus, imitant les cavaliers d'Homère qui s'entretenaient volontiers avec leurs montures, à défaut de mieux, il aurait dit au lion « Moi aussi bientôt j'aurai un frein dans la bouche, un frein d'or, imposé par les belles mains de Flora, la jeune Yankee, dont le père, semblable à Phébus, éclaira jadis le monde avec son pétrole. » À ce moment, les nymphes de ces bois furent assez près de voir un spectacle des moins poétiques, celui d'un jeune homme désarçonné par un écart de son cheval. Deux cris d'épouvante, partis de derrière un buisson, montrèrent que les nymphes ont bon cœur, parfois, malgré leur réputation. Bertrand, par bonheur, en fut quitte pour un rétablissement qui n'était pas dans toutes les règles. Alors il examina la route et vit qu'il se trouvait à l'angle d'un sentier où deux femmes, subitement, venaient d'apparaître comme si elles fussent sorties d'une trappe, d'où la surprise, un peu trop vivement manifestée, du lion. La plus jeune se tenait debout dans une toilette claire, qui sans doute avait causé tout le mal, bien qu'elle n'eût rien de tapageur ni d'excentrique. La seconde inconnue, beaucoup plus âgée, restait assise ou plutôt couchée dans une chaise roulante inclinée sur le côté. La roue du véhicule, gisant sur l'herbe, montrait quelle catastrophe arrêtait les voyageuses dans ce coin perdu. Le marquis de Fonlus comprit la situation d'un seul regard. Comme il était homme d'action, avant tout, il mit pied à terre, attacha son cob à une branche et se dirigea, son feutre à la main, vers les deux femmes à peine remises de leur émoi charitable. « Si je ne me trompe, » dit-il en les saluant avec respect, « j'arrive juste à temps pour opérer un sauvetage. Voyons d'abord la cause de l'avarie. » Il s'agenouilla sur l'herbe, examina l'essieu en connaisseur et, se relevant presque aussitôt, « un écrou perdu, je m'en doutais. « Il ne peut être loin. Nous allons sans doute le trouver à quelques pas, en suivant les traces des roues. »« Monsieur, » dit la dame à cheveux blancs, « je vous supplie de ne pas vous déranger pour moi. Ma fille ira demander du secours à notre maison qui touche la lisière du bois et qu'on apercevrait d'ici sans les arbres. je suis fort commodément étendu, comme vous voyez, rien ne me presse, tandis que vous. » Bertrand, qui n'avait pas quitté la jeune personne des yeux, se récria bien fort d'entendre supposer qu'il pouvait y avoir pour lui à cette heure une affaire plus importante qu'un morceau de cuivre à chercher dans l'herbe. Heureusement, Flora Kingsley n'était pas à portée d'entendre. « Moi, pressé, madame, on voit que je n'ai pas la bonne fortune d'être connu de vous. Je suis le moins occupé des oisifs, trop heureux que le hasard me donne l'occasion de me rendre utile une fois dans ma vie. D'ailleurs, ce sera l'affaire d'un instant. » Déjà, il s'éloignait à contre-pied, un œil sur les ornières en miniature, à peine tracées, l'autre sur Mademoiselle Trois Étoiles, espérant bien qu'on n'allait pas le laisser chercher tout seul son écrou. En effet, il entendit la vieille dame dire à sa fille, presque à voix basse, quelques mots dont il distingua seulement le premier, Suzanne. « Monsieur, dit Mademoiselle Suzanne en le rejoignant sans hésitation et sans embarras, que ferons-nous si nous ne retrouvons pas la petite machine ?» « Oh, mademoiselle, soyez sans crainte. Avec un couteau et un morceau de bois, je remplacerai la petite machine, provisoirement. Les accidents de voiture, ça me connaît. Entre nous, vous vous êtes aventuré dans un chemin un peu carrossable et votre tâche devait être fatigante. » « Un peu, mais la fraîcheur de ce sentier couvert nous a séduites, ma mère et moi, sans parler de l'attrait de l'inconnu, car jamais nous n'avions pénétré si avant dans la forêt. » À l'avenir, il faudra nous contenter, je le vois bien, des routes battues, tout ennuyeuses qu'elles soient. Peut-être que non. Quelques coups de pioche sur les aspérités du sol, quelques tombereaux de sable fin vous feront une allée commode. J'y pourvoirai dès demain, et vous n'aurez plus de désagréments pareils à craindre. « Vous êtes, à ce que je vois, monsieur de Fonlus ?» demanda la jeune fille très simplement. « Pour vous servir, mademoiselle. Et je vous prie d'excuser l'ennui que vous cause mes fondrières. » Suzanne ne répondit rien, trouvant que son interlocuteur poussait un peu loin sa politesse de propriétaire. Elle marchait à côté de lui, sa haute taille légèrement courbée, fouillant du regard les moindres touffes d'herbe, car il lui tardait fort que la chaise roulante fût remise en état et l'aventure terminée. Aussi bien, elle commençait à comprendre qu'elle ne devait pas beaucoup compter sur les yeux de son voisin, qui semblait occupé de tout autre chose que de l'écrou perdu. S'il faut l'avouer, en effet, cet hypocrite de Bertrand aurait passé à côté d'un moyeu de charrette sans le voir. Sous les larges bords de son chapeau, il était devenu soudain frappé de strabisme, et tandis qu'il feignait de regarder à ses pieds, c'était ceux de sa compagne qu'il observait, avec un intérêt d'ailleurs justifié, car il ne perdait rien de leur délicate perfection sous la solide chaussure qui les emprisonnait. S'oubliant de plus en plus, Fonlus laissa ses yeux remonter jusqu'à la main qui retenait les plis de la robe légère. La main balait le pied, chose rare. Tous deux en disaient si long, en abrégé, que le marquis repassa dans sa tête la nomenclature aristocratique du pays pour découvrir qui pouvait bien être cette jeune conductrice de chaise roulante. Mais il se creusa vainement l'esprit. Alors il songea que l'énigme s'éclaircirait nécessairement, pourvu qu'il fût amené par la force des choses à reconduire la vieille dame infirme à sa porte. Il fallait pour cela que l'écrou ne fût pas retrouvé. Oh bonheur ! Il l'aperçut au même instant, et comme de juste, il le couvrit de sa botte en appuyant de tout son poids. Désormais, il était certain qu'on aurait besoin de lui pour sortir de peine. Bien entendu, il continua de chercher de plus belle, tout en causant avec Suzanne, qui l'écoutait d'un air moitié content, moitié vexé, l'instinct lui disant que ce jeune homme correct et distingué nourrissait quelque intention perfide. Elle se retournait de temps en temps pour se donner du courage, en constatant que sa mère était toujours là. Dieu sait pourtant si, à moins d'un miracle, la bonne dame eût été capable de s'en aller toute seule. On entendait les hennissements d'appel du lion, pour qui le temps passait moins vite que pour son maître. Le pauvre animal ne se doutait guère qu'il en avait encore pour une heure de faction. Suzanne, se défiait-elle de la bonne foi de son compagnon, déclara qu'elle renonçait à la recherche, malgré les encouragements fallacieux du perfide qui prenait goût à la situation. Les deux éclaireurs se replièrent sur le gros de l'armée, faisant voir de loin par leurs gestes qu'ils revenaient les mains vides. C'était pour Bertrand l'occasion de montrer son adresse. Il ne l'avait point trop vantée, En quelques minutes, la voiture fut remise en état, provisoirement, sans que la vieille dame eût été forcée d'en descendre. Tout en faisant sa besogne, à grand renfort de chevilles et de ficelles, le charron improvisé entendit sur la grande route voisine un bruit de roues qu'il reconnut. C'était l'équipage portant l'américaine et sa fortune, leur fortune peut-être, bien que, de ce train-là, on fût encore loin des publications. « Bon, » pensa le jeune homme, « ce soir je m'occuperai de Flora. Pour le moment, je suis tout à Suzanne. Primo, celle-ci est ma compatriote. Secondo, elle est bien jolie. » Il annonça que les réparations étaient terminées et qu'on pouvait partir. « Au moins, » dit l'infirme, avec un sourire de bonne humeur, « puis-je compter que ma chaise de poste me conduira jusqu'au relais sans encombre ?» Le marquis secoua la tête d'un air perplexe. Il n'osait prendre sur lui de l'affirmer. Une cheville de bois, même empruntée aux meilleures chaînes de la forêt, ne vaut pas une vis de cuivre. Il ne pouvait rien garantir, sauf le soin qu'il avait mis à son travail. Tout dépendait des chaos du chemin. « Tout bien considéré, conclut-il, je me ferai un scrupule de vous abandonner, madame, tant que je ne vous aurai pas vue en lieu sûr. Je me tiens pour responsable de tout ce qui se passe dans ces bois. Mademoiselle, votre fille, en sait la raison. » « Ma chère maman, dit Suzanne, je vous présente le marquis de Fonlus, dont nous avons envahi la forêt et gâté la promenade. » Le jeune homme protesta de nouveau. À l'entendre, on aurait cru qu'il n'était pas monté à cheval pour autre chose qu'au pour venir au secours de ses deux protégés inconnus. Déjà, poussé par sa main robuste, la chaise roulante s'ébranlait doucement. « Mais monsieur, dit la dame aux cheveux gris, vous n'allez pas laisser votre cheval tout seul au milieu du bois, si quelques braconniers le volent. » Bertrand ne fit que rire de l'idée, et tout en poussant la voiture, tout en causant avec la mère, il examina fort à son aise la belle personne qui marchait devant, un peu de côté, se détournant à chaque minute par un mouvement très souple pour prendre part à la conversation et sourire à la pauvre infirme. Il n'y a au fond que trois types de beauté. L'art grec, toujours infaillible quand il s'agit de grâce féminine, sut les personnifier en trois déesses qu'il osa même, dans la plus romanesque de ses fables, comparer l'une à l'autre, Junon, Minerve et Vénus. Mademoiselle Suzanne, pour le moment il faut bien se contenter du prénom, ne pouvait, à cause de la sveltesse de ses 19 ans, aspirer à la majesté junonienne. Et pour être Vénus, elle avait les cheveux trop noirs, le sourire trop chaste, la taille trop finement modelée. Toutefois, comme pour embarrasser Paris à l'occasion, elle avait pris à la mer des amours ses yeux bleus, son teint de lys et de rose. Voilà bien des détours pour dire que c'était une brune aux yeux bleus, grande, mince, avec une carnation de blonde. Mais les détours ont du bon quand ils prolongent un plaisir, et parmi les plaisirs que donne aux autres la beauté, celui de l'admirer et de la décrire n'est pas le moins appréciable. Quant au moral, cette Minerve croisée de Vénus paraissait moins éclectique. Elle semblait aussi sérieuse qu'on peut l'être à son âge, et aussi peu coquette qu'une femme pouvait l'être avec sa figure. Toutefois, dans cette gravité, rien de morose ne se laissait voir, mais seulement le reflet, teinté de mélancolie par la tristesse et l'isolement, d'une âme noble, courageuse, capable de se suffire à elle-même dans l'adversité, de se maintenir intacte dans la fortune. D'ailleurs, si le sourire se posait un peu trop rarement sur ses lèvres fines et résolues, on sentait presque toujours qu'il n'était pas loin. À la moindre parole gaie de sa mère, Suzanne s'épanouissait. Le reste du temps, elle cherchait à distraire cette souffrance sans espoir. Sa toilette la montrait pauvre, mais très femme, par l'instinct du saillant. Aussi bien, pour tout dire, elle avait ce genre de beauté qui est une économie parce qu'elle part la toilette. Il est difficile d'étudier tout à la fois les accidents du terrain et les lignes sinueuses d'une belle inconnue qui marche devant vous un peu sur la gauche. Bertrand se faisait voir sous le jour d'un homme très aimable, mais d'un cocher plus que médiocre. Il ne manqua ni un creux desséché, ni une branche d'arbre, ni une topinière. Mais fort heureusement, il remplaçait l'attention aux inégalités du chemin par une lenteur invraisemblable. Tous les 100 pas, il s'arrêtait pour voir si son ouvrage tenait bon. L'équipage ne mit guère que 3 quarts d'heure pour gagner une maisonnette située à moins d'1 kilomètre, au bord d'un petit chemin qui ne devait conduire nulle part tant il paraissait dépourvu de toute trace de circulation. « Nous sommes arrivés, » dit la vieille dame, « et je ne sais ce qui domine en moi, le plaisir d'être au terme de mon équipée ou le regret de me séparer d'un compagnon aussi agréable que dévoué. Merci, monsieur. Je voudrais seulement être sûr que vous allez retrouver votre cheval. » Bertrand répondit, ne se souvenant plus qu'il avait déjà, pour le jour suivant, un programme passablement chargé. « Nous viendrons demain vous rassurer, madame, avec votre permission, l'un portant l'autre. » Mademoiselle Suzanne parut légèrement agitée. Elle jeta sur la pauvre maison d'abord, puis sur sa mère, un regard que le jeune homme comprit et qui signifiait clairement « Triste logis pour recevoir le châtelain de Fonlus. » Une servante aux larges épaules, une de ces Hercules féminins qu'on recherche pour soigner les paralytiques, se montra sur la porte d'un appentis collé au pignon de la maisonnette. L'appentis constituait évidemment toutes les dépendances, comme la maritorne constituait tout le service. « Il n'est rien arrivé à ces dames ?» demanda celle-ci en s'essuyant les mains à son tablier. « Je commençais d'être en peine. » Elle s'avançait du côté de la voiture, se préparant, ainsi qu'on pouvait le voir, à prendre sa vieille maîtresse dans ses bras robustes. Mais un signe l'arrêta. La malade avait la pudeur de son infirmité, dernier vestige de coquetterie féminine. Bertrand fit un salut et s'éloigna, car il comprenait que sa présence n'était plus qu'une gêne. Il rentra dans le bois par le sentier qu'on venait de suivre, et tout d'abord fut droit à l'écrou qu'il mit dans sa poche. Puis il se dirigea vers son cheval, qui avait eu lui aussi la bonne chance de tomber sur une âme dévouée. Un garde l'émouchait tranquillement avec un rameau de fougère, non sans lui adresser congrûment les phrases polies usitées en pareil cas. L'homme, en voyant approcher Fonlus, ôta sa cape de drap bleu d'une main et retira sa pipe de l'autre. « Je pensais bien que monsieur le marquis n'était pas loin, et comme les mouches piquent dur, je me suis arrêté dans ma tournée pour calmer le lion, qui était déjà comme un vrai feu d'artifice. Monsieur le marquis, sans moi, n'aurait pas retrouvé son cheval dans le département de Seine-et-Marne. » Bertrand répondit. « J'ai mis pied à terre pour chercher un objet perdu. » Monsieur le marquis a trouvé ce qu'il cherchait. « Je l'ai trouvé sans le trouver, » dit Bertrand. Et tandis que le garde cherchait vainement à comprendre ce style un peu vague, son maître ajouta. « Tout à l'heure, en passant près d'une petite maison isolée, sur la lisière du bois, j'ai aperçu deux dames qui doivent être nouvellement dans le pays. Savez-vous comment elles se nomment ?» Le préposé à la conservation du domaine de Fonlus lorgnait du coin de l'œil, d'un air étrange, deux traces légères de roues qui se voyaient encore sur le gazon de la sente. Mais en subalterne avisé, il garda ses réflexions pour lui et se renfermant dans la question qu'on lui posait. « Les personnes que M. le marquis vient d'apercevoir sont arrivées au mois d'avril. La maisonnette qu'elles ont louée se nomme la Chaumière des Brettes. J'ai entendu dire qu'elles viennent de Paris et qu'elles ont tout perdu. C'est la mère et la fille, les dames de Frézol. Je crois qu'elles ne s'établiraient pas aux Brettes si c'était à recommencer, mais M. le marquis y gagne 200 francs de rente pour le moins. » C'était au tour du jeune homme de ne pas comprendre. Il demanda. « Je voudrais bien savoir comment, par exemple, car les Brettes ne sont pas du domaine. »« Non, monsieur le marquis, mais avant ces dames, nous avions là un paysan qui nous faisait payer au poids de l'or chaque laitue rongée par les lapins, chaque épi de blé brouté par les biches. Il est mort, Dieu merci, et depuis que les Parisiennes ont pris sa place, le régisseur ne paye plus d'indemnité. » Les pauvres dames ne savent pas la loi. Elles mangent les restes du gibier et, comme de juste, elles n'ont pas l'idée de se venger sur lui en l'affûtant. Le bénéfice est donc clair. La demoiselle dit que pour les légumes, ça lui est fort égal, mais qu'elle a bien du regret à cause de ses fleurs. Faut être de la ville pour avoir des idées pareilles. « Vous croyez, Guignard ?» fit le jeune homme. « Eh bien, la demoiselle cueillera des fleurs et sa mère mangera des légumes. C'est moi qui vous le dis. » Madame de Frézol n'ont donc personne pour leur donner de bons conseils et leur apprendre comment on fait financer les propriétaires de bois. « Oh, monsieur le marquis sait bien que les paysans se soutiennent entre eux. Mais les parisiennes, c'est une autre histoire. Et puis ces dames sont fières. Elles n'ont pas de famille, probablement. Jamais on ne voit personne leur faire visite. »« 7 heures !» s'écria tout à coup Fonlus en tirant sa montre. « Allons, boy, un temps de galop. » Mais le lion eut beau galoper, son cavalier fut en retard, comme on l'a vu. Tel est le récit authentique et véritable de l'accident qui rendit le jeune homme coupable d'inexactitude un certain soir qu'il avait toutes les raisons du monde pour être exact.